je me suis dit, tiens, ils sont tous au ciel, ils ne sont pas redescendus. Ça fait du bien d'être dans la louange. Amen. Que Dieu soit béni. Effectivement, les nouvelles enceintes marchent très bien. Je comprends pourquoi elles s'appellent opéra. Je vous invite ce matin, bien-aimés, à ouvrir avec moi le psaume 73. Le PowerPoint va s'afficher, quoique en définitive, honnêtement, il n'y a pas de PowerPoint ce matin. Vous pouvez mettre tout de suite la diapo suivante, frère. Voilà, parce qu'en réalité, je n'ai que ça. Ce que je vais vous partager ce matin est tellement pratico-pratique, il n'y a pas de difficulté théologique. Donc vous allez voir, ce sera surtout du pratique pour nos cœurs, pour nos vies, encore sur la thématique, en partie sur la thématique de nos pensées. Je continue avec vous dans la thématique « Il restaure mon âme ». Et nous avons été amenés à considérer, vous le savez, je ne peux pas tout résumer, mais pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui n'ont pas pu être là certains dimanches, les messages sont en ligne sur le site internet. Nous avons été amenés à considérer que s'il est vrai que seul Dieu veut et peut nous restaurer, si nous avons été amenés à considérer que la restauration qu'il donne est réellement puissante, que même par sa grâce surabondante, il donnera plus après, nous serons mieux après sa restauration qu'avant, il faut aussi considérer que les choses ne tombent pas toutes cuites du ciel et qu'en réalité, le Seigneur, dans sa parole, montre clairement des chemins, pour ne pas dire même des sentiers de restauration, parce qu'un sentier, par définition, c'est étroit, c'est pas simple, ça nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut vraiment être attentif à ce que Dieu veut, à ce qu'il ne veut pas. Il faut obéir, parce que même si je suis blessé, je suis tout à fait capable d'écouter, de faire attention, d'obéir, de me laisser conduire, parce que je sais quelle est la main bénissante du berger qui, lui, veut m'emmener dans tel ou tel pâturage. Et c'est pour ça, avec joie, que je me soumets à lui, que je le laisse me conduire. Et la Bible me montre, dans des tas de situations différentes, pas seulement à des niveaux ecclésiales, dans des situations personnelles, dans des blessures d'enfance, dans des tas de situations diverses et variées présentes, le Seigneur me montre qu'il y a toujours une issue, un chemin de restauration. Mais il me montre, amen, mais il me montre aussi qu'il y a effectivement de vrais chemins de restauration, mais qu'il y en a aussi des faux. Il y a des chemins qui ne sont même plus des chemins, on l'a vu, ce sont des boulevards, des autoroutes, dans lesquels, tellement c'est large, spacieux, c'est tellement automatique pour l'âme de se lancer dans certains faux chemins qui sont des pièges et qui amènent à des impasses, à des précipices et qui ne me restaureront jamais. Donc, aussi blessé que l'on puisse être, quelle que soit la forme de nos blessures, la profondeur de nos blessures, ou depuis combien de temps dure une blessure, il n'y a que le sentier de restauration du bon berger qui vont me permettre de trouver l'issue. On a vu que David avait renoncé à cette autoroute, ce boulevard de vengeance, mais que le jour où il était rentré dans une voie de compromis, il l'avait payé très cher. Ensuite, on a vu qu'il avait évité bien des pièges en montant à Hébron. On a vu Jérémie la semaine dernière qui, lui, avait fait ce choix, malgré ses préoccupations légitimes pour sa propre vie et pour celle du peuple de Dieu, qui avait fait ce choix. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et comment il a compris quels étaient les mécanismes de l'âme dans les pensées, comment à un moment il a su mettre un grand stop aux pensées de son âme qui étaient en définitive, les penchants naturels de l'âme étaient en train de l'égarer, il a discipliné son âme, il a amené son âme au pied de son berger et lui aussi ça a été sa restauration. Ce matin, un autre homme qui s'appelle Asaph et on va lire ensemble dans le psaume 73, peut-être pas l'intégralité du psaume, quoiqu'il n'est pas si long que ça, mais je vais peut-être passer quelques versets. On commence au verset premier. On va parler de cet homme, Asaph, qui, à un moment de sa vie, s'est engouffré dans un faux chemin de restauration Et lui, ça, il le dit, c'est son témoignage, vous allez comprendre, le psaume 73 est un témoignage. Et comment le chemin dans lequel il s'est engouffré a réellement failli lui coûter cher, a failli tout lui coûter jusqu'à sa propre vie avec Dieu, et comment il en est revenu par la grâce de Dieu. Psaume d'Azaph, verset 1er, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est pour ça que l'orgueil leur sert de collier, que la violence est leur vêtement et qu'elle les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment, ils oppriment, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, le peuple de Dieu, voilà pourquoi le peuple de Dieu se tourne de leur côté et qu'il avale, ce peuple, le peuple de Dieu, avale l'eau abondamment. Et le peuple dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Puisque les méchants sont ainsi, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Est-ce donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est devant moi. Si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire comme cette partie du peuple qui a décroché et qui est en train de se tourner vers les impies, si je parlais comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Et quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. On descend un petit peu, on va au verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur, que toi? Et sur la terre, finalement, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Je bénis Dieu pour la vérité et la transparence de cœur de ces auteurs qui ont eu le courage de dire tout haut ce que parfois le Seigneur ne nous le reproche pas, mais nous avons été amenés à penser tout bas. Azaph n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Azaph est un des principaux chefs dans le domaine musical. Il a une responsabilité importante dans l'œuvre de Dieu. C'est un lévite, un musicien. C'est un des grands chefs musicaux. C'est un leader aux côtés de Héman et de Jétoudoum. Et en réalité, c'est en plus de cela, malgré le personnage public que c'est, c'est en plus, on le sait par les psaumes 50, 73 à 83, c'est un auteur biblique. Il a le statut maintenant d'auteur biblique inspiré et infaillible. Ce qu'il a à dire enseigne le peuple, enseigne des générations, encore aujourd'hui. Et pourtant, Asaph a le courage de dire, vous savez, mes bien-aimés, un jour j'ai vraiment failli lâcher la main de Dieu, j'ai sérieusement failli décrocher. Parce que je me suis égaré dans mes considérations, j'ai été terriblement découragé, j'ai eu envie de tout arrêter. Et qu'est-ce qui t'a poussé, Asaph ? On ne le sait pas, il n'y a pas de contexte ici, le contexte n'est pas donné. Mais on sait qu'il est passé par une situation, quelle qu'elle soit, qui l'a tellement secoué, qui l'a tellement découragé, que lui, il n'a pas eu envie d'arrêter un service dans l'église. Lui, il a pensé à lâcher la main de Dieu et dire, Seigneur, c'est bon, merci, terminé, basta, au revoir. Et tracer en sens inverse. Et il a le courage de dire, voilà jusqu'où j'ai été tenté, voilà comment j'ai failli décrocher. Vous savez, bien aimé, il y a des gens dans leur cœur ce matin, ils sont en train de se dire, oh merci Seigneur, c'est pas le pasteur, mais c'est Asaph. Il est en train de dire des choses qui vont vraiment me secourir, parce que je ne peux pas en parler. Puis il y en a d'autres qui se disent, quand même c'est un peu fort, penser à l'âge. Frères et sœurs, personne n'est immunisé. Quand l'épreuve commence à nous enlacer, à nous serrer un peu fort, personne n'est immunisé. D'autres, avant Asaph, sont passés par des moments comme ça et se sont dit, mais est-ce qu'à un moment, j'aurais quand même vraiment pas intérêt à aller regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? On n'est pas immunisé contre le découragement, on n'est pas immunisé contre les mauvaises pensées. Jérémie a sombré dans des mauvaises pensées, par des mauvais regards, des mauvaises considérations, je parle de regards spirituels, des mauvaises considérations. Et c'est indispensable, bien-aimé, quand on est en train d'emprunter un chemin de restauration, je vous l'ai dit, d'identifier les impasses, d'identifier les chemins de traverse, d'identifier des faux chemins et d'être vigilant sur nos pensées et sur nos regards spirituels. Comment nous considérons et comment nous comprenons les choses. Asaph ici est passé par de mauvais moments. Évidemment, je vous l'ai dit, on ne connaît pas le contexte, mais il a été sérieusement secoué et sa foi a été tellement ébranlée qu'il a failli lâcher la main de Dieu. Il a failli tout abandonner. Verset 2, mon pied, mes pas, sachant que la marche, les pieds, les pas, le chemin, la marche chrétienne, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il a dit, oui, j'étais sur le point de chuter, j'étais sur le point de décrocher. Lui, il n'a pas été tenté par la vengeance, il n'était pas tenté par le compromis. Il ne s'est pas apitoyé sur lui-même comme Jérémie. Lui, il a eu un autre mécanisme dans son âme, mais pourtant tout aussi dangereux. Des pensées qui ont failli avoir raison de sa vie avec Dieu. Et il nous explique dans quel engrenage il est entré et comment il s'en est sorti. Ce qu'on constate premièrement, bien-aimé, chez Asaph, c'est un sérieux problème de regard, un regard spirituel, un problème de considération, de compréhension des choses. Là, au moment où il nous écrit, ça va mieux. Il est revenu à l'essentiel. Donc, il peut commencer tout de suite en disant... Dieu est bon. C'est comme s'il disait, je vous le dis tout de suite, mais oui, bien sûr, c'est évident, mais bien sûr que Dieu est bon. Toutefois, mes pas allaient chanceler. C'est une façon de dire, mais en réalité, le problème n'était pas du côté de Dieu. Le problème était de mon côté. Verset 22, c'est moi qui étais stupide et sans intelligence spirituelle. Dans ma difficulté, dit-il, dans ma souffrance, dans mon épreuve, dans l'injustice, peu importe, j'ai commis une grave erreur. Dans l'injustice, j'ai cédé à une tentation, elle peut tous nous toucher. J'ai détourné mon regard de Dieu, de sa nature, de sa parole, de qui il est, de ce qu'il peut et veut faire, de ce qu'il a déjà fait par le passé. J'ai détourné mon regard de lui et j'ai commencé à considérer de façon terrestre, à des instants T, ce que Dieu fait. Ce qu'il ne fait pas, ce qu'il permet à l'un, ce qu'il ne permet pas à l'autre. Et là, il y a un grand cri, une pensée, une tentation alimentée, soufflée par l'ennemi de nos âmes qui lui dit « Dieu n'est vraiment pas juste. Hein. » Et il entend ça et ça le travaille à l'intérieur. Il détourne son regard de Dieu et il commence à attacher son regard sur les incroyants, sur ceux qui réussissent. Regardez-moi bien, je mets des grosses guillemets. Hein, parce que tout ça, on le sait, c'est très éphémère et très passager. Et en regardant, en considérant les incroyants qui réussissent, il commence à douter de Dieu. Il doute de la bonté de Dieu, de ses plans, de ses promesses, de sa fidélité et même de sa capacité. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Comment saurait-il? Et finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il sait de ma souffrance? Versets 4 et 5. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé dans bon point. Il est en train de regarder au moment où lui, il a quelque chose. Il regarde des incroyants qui, eux, ne sont pas atteints par les mêmes problèmes que lui. Et il dit, mais eux, ils sont en bonne santé. Eux, ils ne souffrent pas des maux dont souffrent parfois certains chrétiens. Merci Seigneur, il a osé le dire. Verset 12. Ainsi donc sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Parce qu'en plus, toi, tu as peut-être des problèmes de fin de mois, mais eux, non. Et combien de fois, bien-aimés, on a vu des gens nous dire, parce que viennent les railleries, verset 8, verset 9, ils raillent, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, ils s'en prennent à Dieu même. Leur langue se promène sur la terre, ils en ont après Dieu, ils en ont après vous. Il est où ton Dieu? T'as vu comme t'es malade par rapport à moi? Il est où ton Dieu? T'as vu dans quel état est ta famille? Il est où ton Dieu? T'as vu ton compte en banque? Il est où ton Dieu? Et ça, c'est des choses, bien aimées, qui peuvent résonner en nous. Et après, on nous regarde, on se pavane et on dit, mais moi, j'en ai pas besoin de ton Dieu, moi. Puis, à quoi ça te sert? Depuis le temps, tu vas encore dans cette église? Aller de la fourmi? T'as déjà rien que le nom, t'as pas l'impression qu'il y a un problème dans l'énoncé? Tu vas encore dans cette église? Et là, verset 10, Asaph, il est pris dans la tourmente des pensées comme ça. Puis il se dit, verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, mais je comprends qu'il y en ait qui aient gobé des discours comme ça. Il dit, je comprends qu'il y en ait qui se tournent de leur côté, séduits par ce genre de pensées. Ils ont craqué sous la pression et ils sont repartis en arrière. Mais dites pas que c'est pas possible. Combien de personnes bien-aimées ont pris le baptême avec vous, le jour où vous avez pris le baptême, souvenez-vous, ils sont où? Combien de personnes avez-vous vues dans l'église ou dans les églises depuis? Combien de frères, de sœurs dans la foi avez-vous côtoyés? Ils sont où? Ils se sont tournés de leur côté, séduits, ils ont craqué sous certaines pressions par des faux raisonnements et des gens qui ont décroché, ben malheureusement, il y en a eu, il y en a toujours eu. Et moi, vous savez, bien aimé, quand quelqu'un a décroché, que Dieu m'en garde, je ne le regarde pas de haut et je ne le juge pas. Parce que je ne sais absolument pas comment moi j'aurais réagi si j'étais passé par l'épreuve par laquelle il est passé. On ne peut pas être d'accord avec tout, on ne peut pas tout cautionner, d'accord. Mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et certains ont fini par décrocher, verset 11, et c'était une façon de dire, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? C'est le peuple de Dieu qui parle à ce moment-là. C'est une remise en question de la nature de Dieu, parfois même de son existence. Mais est-ce que Dieu est vraiment aussi souverain que... Et elle est où sa justice dans tout ça? Et l'ennemi est très fort pour nous souffler des pensées qui, humainement parlant, sont tellement logiques, mais qui nous posent vraiment question, qui nous posent vraiment problème. Un jour, j'étais avec un frère, dans la voiture, je l'accompagnais. Et puis, on sort de chez lui, on sort de son lotissement. Je ne sais plus où on allait, à l'église, à l'hôpital, je ne sais plus. J'étais avec le frère dans la voiture, on sort. Puis, il y a le voisin qui rentre dans le lotissement. Puis, le frère, c'était dur. Il me regarde, il me prend comme ça. Puis, il me dit, mais lui, il n'a pas le cancer, lui.
Seigneur, moi je t'aime, moi je te sers. Des gens qui ont des problèmes, des chrétiens qui parfois ont des problèmes matériels, ont un mal fou à se trouver un boulot, à avoir une situation professionnelle stable. Seigneur, mais eux, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Une fois, une sœur me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je lui parle de Jésus à lui? Regarde, il me nargue quand je rentre, il me nargue avec sa grosse bagnole. Puis elle me regarde, elle me dit, Stéphane, pourquoi le Seigneur ne me donne pas plus d'argent? Et puis il y a des bien-aimés qui voient leurs enfants gambader. Pas des bien-aimés, des inconvertis. Ils voient les enfants, des enfants gambadés. Mais toi, peut-être ta fille, ton fils, il est malade. Et puis dans vos familles, peut-être vous avez des blessures familiales. J'ai vu des uns, les uns, les autres, avoir des enfants qui leur tournent le dos. Ils n'ont pas été des... Bien sûr, aucun parent n'a été parfait, mais ils n'ont pas été plus mauvais que d'autres. Mais des enfants leur tournaient le dos parce qu'ils ont pris des choix, ils ont fait des choix, ils ont pris des positions. Pour ce monde, ils veulent « Papa, maman, t'es gentil, ton Dieu, j'en veux pas !» Et des familles sont brisées, sont éclatées. Et des enfants sont parfois rentrés en guerre contre leurs parents chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Juste pour ça. Et là, les parents chrétiens, ils voient la petite famille qui se balade, qui se promène, parce que dans le monde, le péché n'a quand même pas tout détruit. Et puis il y a des gens, vous voyez des images ponctuelles, mais des images de bonheur. Monsieur et madame, avec leurs enfants et les petits-enfants et la poussette. Et vous, vous êtes là. Et que dire des bien-aimés qui sont passés par le deuil et qui sont passés par le deuil très tôt dans leur vie, qui n'ont pas pu profiter de leur retraite à deux, et qui voient leurs voisins qui ne sont pas au Seigneur, qui n'en ont strictement rien à faire de votre Dieu, et puis qui sortent bras dessous, parce qu'ils sont toujours ensemble. Mais il y a des sœurs, il y a des frères dans les églises, ils sont seuls depuis des années. Et voyez, au bout d'un moment, ben Asaph, tout ça, ça l'a retourné. Il restaure mon âme, son épreuve, à laquelle s'ajoute une multitude de pensées. Alors là, on est vraiment dans le psaume 94. Les pensées s'agitent en foule en dedans de moi. Il tombe dans un système de comparaison. L'aigreur, l'amertume commence à monter en lui et son âme, elle est retournée. Il est tout retourné. Il est réellement déstabilisé dans ses convictions, ébranlé dans sa foi, sérieusement ébranlé dans sa foi. Et là, Asaph nous dit, mais si c'est pour ça, quand je considère tout ça, là il commence à se poser une question, verset 13. Est-ce donc, c'est bien la conséquence logique dangereuse de ces considérations, verset 13, est-ce donc en vain que j'ai purifié mon cœur? Ça signifie, à quoi ça sert que je sois devenu chrétien, si c'était pour ça? Purifier mon cœur. J'ai lavé mes mains dans l'innocence. Qu'est-ce que ça me rapporte tout ça finalement? À part que, comme on est sauvé par la repentance à la foi, j'espère bien qu'un jour j'irai au ciel avec le Seigneur. Mais même ce genre de conviction dans le cœur des chrétiens, parfois peut être bien ébranlé. Et on peut même perdre l'assurance, la joie de notre salut. Vu que verset 14, bien sûr que ce n'est pas à l'échelle de l'éternité, bien sûr que c'est à l'échelle de quelques mois, quelques années, de certaines situations de vie. Mais parfois ça peut durer, on ne va pas se mentir. Et verset 14, Asaph n'exagère pas quand il dit... Chaque jour, je suis frappé. Chaque matin, je me lève avec mon problème. Chaque jour, la pression est là, elle est là sur moi. Et Dieu n'agit pas. Je prie, mais Dieu n'a pas réglé, Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas... Vous savez très bien que Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas... Il fait quoi, le Seigneur? Il attend quoi? Et verset 15, inévitable, c'est la conséquence. Asaph se retrouve à ce moment-là dans une position spirituelle extrêmement compliquée. Il se retrouve dans une position réellement inconfortable. Il est tiraillé entre ce qu'il voit, il est tiraillé entre ses pensées, et il se dit, mais oh, il y a un sentiment de culpabilité, il prend conscience du danger à l'intérieur, et il se dit, si je continue comme ça, je vais trahir la race de tes enfants. Ça veut dire, Seigneur, je vais vraiment finir par décrocher. Si je continue comme ça, je vais tout lâcher. Merci Seigneur pour ceux qui ont osé et dire tout haut et écrire dans une révélation infaillible et éternelle. Les douleurs, les peines, les doutes, les pensées, les combats, les tiraillements, les pressions par lesquelles nous pouvons passer les uns et les autres. Ah, c'est pas de bon ton de faire ça, hein. C'est pas de bon ton de dire des choses comme ça. Trop de vérité, ça met mal à l'aise. Hein. Parce que nous, soit on ne s'est pas permis de dire que... Soit on ne nous a pas permis d'exprimer que dans des cultures d'église légalistes, hypocrite, où il faut toujours faire bonne figure, où on n'a pas le droit d'aller mal, où il faut que tu ailles bien, où peu importe ce que tu ressens, il faut toujours que tu aies le masque, le visage, le sourire, parce que c'est de bon ton, il faut qu'on aille bien, parce qu'on est chrétien, donc forcément, eh bien, tout va bien, et on a été beaucoup plus malheureusement bien aimé, on a été après, on a été enseigné à se terrer dans nos blessures, à souffrir en silence, à se taire, à dissimuler, à intérioriser, à toujours faire bonne figure. On ne s'est pas permis, on ne nous a pas permis, dans certaines cultures d'église. Bien sûr, on ne peut pas s'installer dans ce genre de pensée, c'est dangereux. C'est la mort spirituelle assurée. Mais qu'on y passe, je vous le dis, mes bien-aimés, je ne jugerai jamais. Je vous ai donné mon témoignage, j'ai été vrai avec vous. Je ne jugerai jamais personne parce que j'ai failli décrocher, très sérieusement. Une fois avec Dieu, j'étais à un millimètre de tout lâcher. Et une fois dans le ministère, j'étais à un millimètre de tout lâcher. Deux fois, ça m'est arrivé dans ma vie. Une fois en tant que disciple et une fois en tant que pasteur. Il n'y a pas à en avoir honte, mais il faut réagir. On ne peut pas rester comme ça. On sait que l'issue est fatale. Mais quand on est tiraillé par la raison, et puis vous vous souvenez quand on a parlé de Jérémie il y a deux semaines, on a beaucoup insisté sur le système des pensées, sur les mécanismes de l'âme. Et on a vu que, et vous le savez, les pensées, là, à l'intérieur de nos cœurs, les pensées qui nous habitent, peuvent être vraiment nombreuses, peuvent être réellement oppressantes, voire tyranniques, envahissantes. Et les pensées, par principe, une pensée est extrêmement puissante. Et Asaph, il a essayé de réagir. Il a essayé de se reprendre. Il s'est dit, il faut que je me ressaisisse. Enfin, Steph, quand même, t'es chrétien. Tu ne peux pas avoir des pensées comme ça. Et il a essayé. Verset 16, il nous a fait tout le déroulé. Il s'est même demandé comment ça se fait, à quoi ça servait finalement d'être chrétien. Et puis au verset 15, il dit, je suis tiraillé dans cette position. Si je parle comme eux, je vais trahir la race de tes enfants. Dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds? Puis en même temps, je ne sais pas comment m'en sortir en vérité. Alors il commence à essayer, il réfléchit. Verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus,
a, ça fait 40 ans qu'ils réfléchissent, ils ne s'en sont toujours pas sortis.
Quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Ah oui, ça c'est sûr, comment je vais expliquer la situation de certains enfants de Dieu et la situation prospère de certains inconvertis. Et là, ça peut être très compliqué. Quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Asaph est en train de dire, j'ai bien essayé de changer ses raisonnements, j'ai essayé de me raisonner, j'ai essayé de canaliser mon âme, j'ai vraiment essayé de calmer mon âme, et je me suis dit, oui, bon, allez, mais tout ça, c'est évident, allez, c'est passager, frère, on a compris que le Seigneur, lui, travaille dans une perspective éternelle, on a bien compris que ça, ce sont des images que le monde nous envoie, puisque, en définitive, c'est le champion des illusions, de la poudre aux yeux, et, en attendant, la poudre aux yeux, elle est drôlement bien faite, hein. Quand tu souffres. Le monde, on le sait, va étaler une forme de bonheur pour cacher son péché, sa misère, les drames. Oui, mais Asaph, il dit, mais moi, verset 14, ce que vous ne comprenez pas, pasteur, c'est que moi, chaque matin, je me lève avec ma douleur. J'ai essayé de calmer mon âme, j'y arrive pas. J'essaye de me raisonner, j'y arrive pas. Parce que chaque matin, il faut tout recommencer. Parce que chaque matin, mon chagrin est sur moi. Verset 21, je me sens percé dans mes entrailles. Quand on se sent percé dans ses entrailles, on se sent trahi. Et Asaph, il se dit, mais avec ces mots à lui, d'autres ont employé d'autres mots. D'autres, parfois, dans les psaumes, quand vous n'allez pas bien, frères et sœurs, lisez les psaumes, lisez abondamment les psaumes, lisez toute la parole, mais les psaumes, extraordinaire. Et certains ont dit, Seigneur, jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand est-ce que tu vas m'oublier? Jusque à quand, Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner? Je me sens percé dans mes entrailles. C'est comme si Dieu l'avait abandonné.
Il y a des choses bien aimées que nous pouvons expliquer. Amen. Je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que je peux tout expliquer. Non. Il y a des choses qui s'expliquent. Il y a des révélations que le Seigneur nous donne. Il y a des choses qu'il nous donnera un peu plus tard. À la sortie de l'épreuve, puis il y a des choses bien aimées parce que ça fait partie de notre foi, il y a des explications qui nous seront données, certaines maintenant, certaines dans quelques temps, et d'autres uniquement là-haut, parce que ça fait partie de notre foi. Et là, Asaph comprend le véritable sens de son épreuve. Il comprend que le véritable sens de son épreuve, c'est de pénétrer, d'aller plus en avant, plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus profond dans la présence de Dieu. Sa seule issue, pas pour les mêmes raisons, mais comme tous les autres, sa seule issue, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Quand j'ai essayé de calmer mon âme, quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux, virgule, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, qui dans le langage de l'Ancien Testament, vous le savez, signifie la présence de Dieu. Je ne m'étends pas sur ce point théologique. Sanctuaire, maison, parvis, etc. désigne la présence de Dieu. La compréhension, le regain de foi, le regain d'élan, le courage est revenu dans la présence de Dieu, par la présence de Dieu. Parce que oui, les choses peuvent s'éclairer, parce que oui, Dieu a des réponses. Mais en réalité, il fallait d'abord rentrer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que, non pas que
j'ai un bon moment, que j'ai une bonne réunion, un bon culte avec les frères et sœurs. C'est mieux que rien. Jusqu'à ce que, oui, j'ai une bonne lecture biblique cette semaine, c'est mieux que rien. Jusqu'à ce que mardi, on ait une bonne réunion de prière, c'est mieux que rien. Jusqu'à, il n'a pas effleuré, jusqu'à ce que je pénètre, jusqu'à ce que ce soit fait. Jusqu'à ce que j'ai pénétré, c'est du subjonctif passé. Jusqu'à ce que j'ai pénétré, jusqu'à ce que je sois allé au plus profond de la présence de Dieu. Là, les choses s'éclairent. Là, tout devient limpide. Là, les choses prennent du sens. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans la présence de Dieu. La compréhension est venue après. Les choses se sont éclairées après. Et même il n'a pas eu la réponse à toutes ces questions, ne nous mentons pas. Mais il lui fallait absolument un éclairage, il lui fallait une perspective divine à sa situation, il lui fallait une parole, il lui fallait une perspective divine. Il fallait qu'il voie, parce que la présence de Dieu élève nos âmes. Et il fallait que par cette présence de Dieu, il fallait que son âme soit élevée et qu'il commence à considérer les choses non plus d'en bas, mais qui commence à les considérer d'en haut et à les voir avec le regard de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand on considère des choses d'en bas, elles sont toujours trop grandes. C'est toujours trop compliqué. C'est toujours trop. Et quand on les voit d'en haut, vous savez qu'il y a une période de ma vie où j'ai servi le Seigneur en Normandie. Et j'ai souvent été amené, parce que mon fils, qui était enfant puis adolescent, était un inconditionnel des plages du débarquement. Alors tous les ans, il fallait que je l'emmène voir le musée du débarquement, etc. Et puis, ce qui est très instructif d'ailleurs, puis un jour j'ai entendu ce témoignage de deux anciens combattants des forces alliées qui participent au débarquement en Normandie. Et puis, il y en a un qui était sur les navires, et lui, il a débarqué par voie terrestre. Et l'autre a porté un témoignage parce que lui était arrivé par les voies aériennes, il était aviateur. Et celui qui est arrivé, le premier qui témoignait, il disait, lorsque on entendait les balles qui sifflaient de partout, on était serrés les uns contre les autres dans les bateaux, et que le pont du bateau s'abaissait, et qu'on essayait de sortir, mais que je voyais déjà mes frères d'armes, ils avaient tous 19, 20, 21 ans, que je voyais les uns et les autres tomber avant même qu'ils soient sortis du bateau. Et puis quand on a réussi, moi j'ai réussi à sortir du bateau, on a réussi à se mettre là comme ça, et que je regardais, il disait, je voyais sur la plage, je voyais des centaines et des milliers d'hommes tomber les uns après les autres. Et je voyais le sable se gorger du sang de mes frères. Je dis, quand j'ai vu ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? On est fichu, jamais on s'en sortira. On est tombé dans un traquenard, on aurait dû faire marche arrière bien avant, jamais on aurait dû débarquer. C'était impossible, on n'y arrivera jamais, on va tous y rester. Comme des fois l'ennemi de ton âme te dit, qu'est-ce que tu fais là? De toute façon, tu t'en sortiras jamais. Et puis, il y a le témoignage de l'aviateur. Et lui, il dit, quand j'ai vu les forces en présence, quand j'ai considéré les bunkers, les forces allemandes, nazies qui étaient là, quand j'ai considéré toute l'armée qui était là avec moi dans les airs, quand j'ai considéré les milliers d'hommes qui marchaient encore et qui avançaient encore et qui allaient se battre et qui commençaient à prendre des places fortes sur les bunkers nazis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de venir? Jamais, au grand jamais, nous pouvons perdre cette bataille, c'est impossible, elle est gagnée d'avance. On va y arriver, on a bien fait de venir, c'est gagné. À votre avis, comment est-ce qu'on peut avoir deux regards aussi différents d'une même situation? Parce qu'il y en a un qui l'a vu d'en bas, et il y en a un qui l'a vu d'en haut. Et c'est tout, frères et sœurs, c'est toute la question de nos pensées, et de nos considérations, de nos analyses humaines ou spirituelles. Et dans la présence de Dieu, c'est ce qui s'est passé avec Asaph. Lui, il n'a pas eu un bon culte. Lui, il n'a pas eu une bonne réunion de prière ou une bonne lecture biblique. Il a vraiment, comme David qui a dû monter à Hébron et qui a dû s'installer à Hébron, il a fallu qu'il pénètre, qu'il aille profondément, beaucoup plus loin, dans la présence de Dieu, qu'il l'a élevé, qui a changé sa perspective, sa façon de voir, sa façon d'analyser les gens, les choses, les situations, les difficultés. Dieu, et même lui-même, il s'est vu différemment. Parce que, bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dieu ne rentre pas dans nos cases. On aime bien, nous, hein. On aime bien les questionnaires à choix multiples, puis on aime bien, on a des petits trucs comme ça, puis on a des cases. Tout nos systèmes, et on est formaté comme ça, et on a des cases. Et lui, je l'aime bien, mais il est gentil, mais il ne rentre pas dans mes cases. Elle, je l'aime bien, mais elle est bien, mais je n'ai pas de cases pour la loger. Lui, ça va, mais il ne s'habille pas comme moi, alors ça ne peut pas coller. Frères et sœurs, Dieu ne rentrera jamais dans nos cases. Dieu ne poursuit pas les mêmes buts que nous. Il n'a pas les mêmes objectifs. Il n'a pas les mêmes pourquoi, les objectifs. Pourquoi, en deux mots, les mêmes objectifs. Il n'a pas les mêmes buts. Il ne poursuit pas les mêmes objectifs. Dieu travaille à l'échelle d'abord de nos cœurs. Asaph a compris que le sens de son épreuve, même s'il ne comprenait pas tout, c'est d'aller dans la présence de Dieu, où il trouverait des richesses et des bénédictions infiniment supérieures aux bénédictions matérielles, que Dieu ne lui refuse pas, mais qui viendront après. Dieu travaille à l'échelle de nos cœurs. Dieu a résolu de faire de nous des disciples forgés, mature, enraciné dans la foi, qu'il aime lui plus que tout et indépendamment de tout et de tous, de nous amener à lui ressembler. Vous vous rendez compte ? Non content de nous avoir sauvés, de nous avoir attirés, régénérés, remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur, il a un but extrêmement élevé pour moi. C'est que j'ai un super boulot à 5 000 € chaque mois jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas qu'il y pourvoit pas, il y pourvoit. Mais Dieu a un but, son but c'est de recréer en moi l'image de son fils Jésus. Dieu cherche des adorateurs, Dieu veut des disciples, Dieu cherche des combattants, il cherche des guerriers et il nous forge. Et frères et sœurs, les armes, elles se forgent dans le feu, les disciples, ils se forgent dans les fournaises. Les disciples, ils se forgent dans les déserts. Les disciples se forgent dans les tempêtes de la vie. C'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est pas qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est que quand Dieu n'agit pas dans tes circonstances, c'est qu'il veut agir dans ton cœur. Et s'il y a quelque chose que tu demandes et qui n'arrive pas, au lieu de... Je comprends, c'est horrible. Ça bloque, c'est dur. Et au lieu de rester focus sur ce que Dieu n'a pas encore fait, comprends bien, ça vous pouvez, frères et sœurs, vous l'écrivez, vous le gravez en rouge au-dessus de votre lit, mais comprenez que Dieu agit et qu'il agit toujours. Le truc, c'est qu'il n'agit pas là où nous, on porte nos yeux. Comprenez bien, c'est ça que vous pouvez graver. Quand Dieu n'agit pas à l'extérieur, c'est-à-dire dans tes circonstances, quand Dieu n'agit pas à l'extérieur, c'est qu'il veut agir, j'en profite puisque le micro-cravate n'est pas encore arrivé, à l'intérieur, parce qu'après je ne pourrais plus, c'est qu'il veut agir à l'intérieur. Le frère Alassono, il est sous la table, il dit, on va jamais, qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là ? Quand Dieu n'agit pas à l'extérieur, c'est qu'il veut agir à l'intérieur. S'il ne fait pas un miracle dans tes circonstances, c'est parce que c'est toi. C'est toi le miracle. Là, il n'y aura pas de micro, j'ai le droit. C'est toi le miracle. Et si Dieu ne fait rien dans tes circonstances, eh bien, sache qu'il agira, il veut agir à l'intérieur. Il veut te donner un cœur, un caractère, une foi. Il va te, j'emploie le mot sciemment bien-aimé, il va te forger. Il faut que ça chauffe pour donner au métal la forme que l'on veut lui donner et la résistance pour l'avenir. Parce que, au cas où vous n'avez pas compris, depuis le 3 août, je vous le dis tous les dimanches, Dieu a un avenir pour cette église. Et le premier miracle dont tu as besoin, mon bien-aimé, je sais que les besoins terrestres sont préoccupants, inquiétants, urgents, et légitimement, ils peuvent te voler ton sommeil, ils peuvent te voler ta joie, ils peuvent faire tellement de... Je sais, c'est préoccupant, c'est urgent, mais en définitive, ce que Dieu veut d'abord, c'est faire une œuvre dans ton cœur. Et que tu découvres, même s'il y a tellement de choses extraordinaires que Dieu veut et encore peut faire pour toi, à l'extérieur, sur cette terre, dans les circonstances, il veut que tu découvres des trésors, des richesses, de joie, de paix, de bénédiction, de force, d'épanouissement. Si vous ne dites pas « Amen, je prêche jusqu'à 15 heures », des dimensions en toi qui surpassent tout ce que tu peux concevoir aujourd'hui. Mais tu ne le trouveras que, tu vas pénétrer dans sa présence. Et c'est là que les choses vont pouvoir se faire. Et le premier miracle dont tu as besoin, pardonne-moi mon bien-aimé, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour toi ce matin, mais le premier miracle dont tu as besoin, c'est lui. Le premier miracle dont tu as besoin, c'est dans ton cœur qu'il doit avoir lieu. Ce n'est pas, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et sans aucun reproche, le Seigneur ne me reproche rien. Mais avec beaucoup de bienveillance, ce n'est pas à Dieu d'entrer dans tes conceptions. C'est à toi d'entrer dans les siennes. Ce n'est pas à Dieu de te rejoindre sur les affaires de la terre. Il est déjà venu, Jésus. Il est déjà descendu. Il a déjà tout accompli. Il a déjà... Maintenant, c'est à toi de monter dans les dimensions célestes avec lui. Et c'est ça qu'il veut pour toi. Et c'est à toi maintenant d'entrer dans ces dimensions. Entre dans ces perspectives, dans ses priorités, ses plans, son timing. Je termine. Asaph a saisi le sens profond de son adversité. Et quand vous regardez bien le psaume, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais en fait, on a deux hommes différents, deux discours différents. Jusqu'au verset 16, on a un certain Asaph, mais à partir du verset 17, on a un discours totalement différent. L'état d'esprit est différent. Dieu n'a rien réglé, mais l'état d'esprit est différent, les choix, les affections, les priorités, tout est différent. Et à partir du verset 17, on n'a plus le même homme, on n'a plus la même femme. C'est carrément un autre discours. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé dans le cœur. Et si vous faites bien attention dans ces deux parties de psaume, la première partie, tout ce que dit Asaph dans la première partie, se focalise sur ce que Dieu fait ou ne fait pas. Et à partir du verset 17, tout son discours se focalise sur ce que Dieu est pour lui. Asaph est sorti de ce système de comparaison destructeur, malsain, un raisonnement qui a failli avoir raison de lui, pour se recentrer, pénétrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Et là, verset 23, je suis toujours avec toi. Vous savez, si j'aime mon épouse, je l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait. Et si elle me fait des super lasagnes et un super tiramisu, merci ma chérie, c'est trop gentil d'avoir pensé, d'avoir pris le temps. Mais vous savez, si elle ne le fait pas, ma joie c'est elle. Je l'aime elle, pour elle. Et ma joie c'est pas ce qu'elle a mis dans mon assiette. Ma joie et mon privilège c'est d'avoir une femme comme elle en face de moi chaque jour.
joie et mon privilège, c'est d'avoir un Dieu auprès comme ça, auprès de moi, chaque jour. Et c'est ce que dit ici Asaph. Finalement, après avoir considéré tout ça, pour risquer de me perdre, je suis toujours avec toi. Verset 25, quel autre ai-je au ciel, Seigneur, que toi ? Quelle dimension de foi il faut pour dire, sur la terre, je ne prends plaisir que en toi. À la présence de Dieu, ça vous change un homme, hein, une femme aussi. Hein. Ma chair et mon cœur, verset 26, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Ce qui consume, quand quelque chose est consumé, c'est mort, il ne reste plus rien. C'est comme s'il disait, mais quoi que Dieu fasse ou ne fasse pas, même si je dois y rester, Job disait, même s'il me tuait, je continuerai de croire en lui. Et même si, Seigneur, de toute façon, peu importe ce que tu feras ou ne feras pas, quand ou comment tu le feras, c'est ton problème, ce n'est plus le mien. Je t'ai tout remis. Dieu sera toujours mon partage. Je cesserai jamais d'être en communion avec lui. Je cesserai jamais d'être à sa table. Je cesserai jamais de le regarder dans les yeux. Et rien ne pourra m'éloigner de sa présence parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça ma vie. C'est ça le sens de ma vie. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça ma bénédiction. C'est tous les moments où toi et moi, Seigneur, on s'est regardé dans les yeux, toutes les fois où j'ai croisé ton regard d'amour, de pardon, de bonté, de miséricorde, où j'ai eu des cœur à cœur, des face à face, où dans l'épreuve, j'ai ressenti ta présence. Je ne pensais même pas que je pouvais te ressentir comme ça, Seigneur. Tellement ce que tu fais à l'intérieur est puissant. Je n'ai même pas vu que mes problèmes n'étaient pas réglés. Tellement tu... Asaph a changé la nature de sa relation avec Dieu. Il a cessé d'avoir une relation fondée sur ce que Dieu fait ou donne. Et par la présence de Dieu, il est arrivé à une relation fondée sur ce que Dieu est. Point. Et c'est comme ça qu'il est revenu à l'essentiel et c'est comme ça qu'il a été sauvé d'un système de pensée destructeur. Et c'est comme ça qu'il a été restauré. Amen. Soyez bénis. On peut se recueillir un instant, s'il vous plaît, bien-aimés.